Le collectif Unissons nos différences présente les semaines de lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, notre invitée, Edith Lécuyégo, du Mémorial des Déportés. Bienvenue, amis auditeurs, sur l'autre radio. On se retrouve pour parler d'Unissons nos différences. Vous n'êtes pas sans savoir, amis auditeurs, que nous sommes dans les semaines de lutte contre les discriminations au mois de mars. Et donc, c'est l'occasion de faire un petit focus un petit peu sur l'ensemble des structures qui font partie de ce collectif UND, puis de parler un petit peu d'actualité, de parler un petit peu d'histoire aussi, un petit peu comment tout ça s'est mis en place. On a la chance de recevoir aujourd'hui Edith Lécuyégo, qui représente le Mémorial des Déportés de la Mayenne. Bonjour Edith.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Merci d'accepter notre invitation sur notre radio. On va parler du mémorial et puis aussi bien sûr du collectif. Justement, le mémorial, l'histoire un petit peu du mémorial, comment ça s'est mis en place? Comment s'est construit ce mémorial des déportés sur la ville de Mayenne?
Alors, le mémorial, donc, c'est une idée au départ de Jocelyne Dumont, qui est toujours d'ailleurs notre présidente. Elle est fille de déportés. D'accord. Donc elle a pensé ouvrir en Mayenne, parce qu'au départ, on ne savait pas si c'était Laval ou Mayenne. Donc, ouvrir un espace uniquement dédié aux déportés, à la déportation.
D'accord.
Donc, c'est un cas assez unique. Enfin, un exemple plutôt assez unique quasiment en France, puisque la plupart des centres sont résistance et déportation. Donc, l'espace a été ouvert, inauguré en 2012. Hein, et donc, il est aujourd'hui, vous avez deux salariés, deux services civiques et puis une dizaine de bénévoles dont je fais partie. Voilà. Alors, vous le savez, il y a une double vocation dans ce mémorial. C'est d'abord un lieu de mémoire, donc avec un espace où on présente toute l'année des témoignages d'anciens déportés, des vidéos, des écrits, donc des objets qui ont été ramenés des camps. Et puis nous avons un deuxième espace donc qui s'appelle l'espace vigilance qui cherche à sensibiliser donc le public aux discriminations, à la défense des droits de l'homme. Et donc cet espace est aussi un cadre où nous proposons des expositions temporaires. Donc nous avons eu il y a 2 ans Femmes engagées qui se faisait en partenariat avec une autre association de l'UND, Femmes solidaires. Mmh. Nous avons travaillé avec une autre association aussi appartenant à l'UND sur les gens du voyage à propos du camp de rétention de Montsûr. Et là, actuellement, donc, nous proposons une exposition temporaire qui se nomme « Destin brisé, itinéraire de juifs en Mayenne de 1939 à 1945 ». Alors, inutile de vous dire que cette exposition qui a été inaugurée le 3 octobre n'a été vue par le public pendant un mois. Donc, pour l'instant, nous avons prévu de prolonger. Normalement, c'était jusqu'en décembre 2021. Mmh. Et là, on va la prolonger un semestre suivant pour que le plus grand nombre possible de personnes puissent aller la voir. Vous voulez que je vous évoque des itinéraires sur les 8 que nous avons choisis pour cette exposition, ou vous préférez j'évoque nos projets dans l'immédiat?
Alors, ce qu'on peut déjà évoquer, c'est que je vois bien qu'il y a plein de choses, et donc vous avez su le démontrer dès le début, c'est qu'en fait, il y a vraiment pas mal de choses. On va peut-être revenir juste sur l'histoire. Vous disiez Laval-Mayenne, pourquoi le choix de Mayenne? Qu'est-ce qui s'est fait,
en fait? Alors, en fait, c'est très simple, c'est que donc, quand Jocelyne Dumont et quelques bénévoles, ils étaient 4 ou 5 au départ, a pensé ouvrir ce centre. Elle s'est d'abord adressée au maire de Laval, qui était Guillaume Garot à l'époque, et qui était tout à fait d'accord, mais qui n'avait aucun loco.
D'accord.
Aucun local, plutôt. Et finalement, le maire de Mayenne, donc l'ancien maire de Mayenne, Monsieur Angot, a proposé une ancienne salle de boxe qui pouvait donc être utilisée pour ce mémorial. Donc la mairie de Mayenne a pris en charge tous les travaux. Et donc nous ne sommes que résidents dans les locaux. Et pour ce qui est de l'année 2022, enfin c'est plus qu'un projet maintenant, nous allons déménager. La mairie de Mayenne nous propose l'ancienne école de musique qui est beaucoup plus centrale.
D'accord. Donc pour les 10 ans, parce que ça fera 10 ans du coup en 2022,
voilà,
si j'ai bien suivi.
Et donc, voilà. Donc,
un magnifique bâtiment, parce que c'est un bâtiment aussi d'histoire qui est très très beau, qui est situé au cœur du parc du château à Mayenne.
Tout
et donc du
fait.
Coup, vous allez rejoindre ce lieu-là.
Voilà. Puis alors en plus, pour des questions pratiques, donc une meilleure visibilité, meilleures possibilités de parking également. Et donc là, pour l'instant, nous avons 4 salles et là, on aura un espace.
Il y aura un lien qui pourra se faire aussi, tout bêtement, avec le musée du château aussi. Il y aura une continuité aussi avec le musée du château qui est juste à côté. Donc il y aura vraiment tout un...
Et donc seront regroupés là un certain nombre aussi d'associations. L'école de musique qui va s'agrandir. Enfin, donc ça va être un centre culturel.
Donc ça, c'est acté pour 2020.
Alors, ça y est. Sauf que pour l'instant, tout ce qui est choix des travaux, enfin des artisans, là, c'est le conseil municipal de Mayenne. Nous on ne s'en mêle pas. Peut-être que nous serons peut-être sollicités peut-être pour éventuellement l'aménagement. Mais enfin, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est qu'en 2022, on pourra, donc grâce à la municipalité de Mayenne, puisque la municipalité qui suit est d'accord avec ce projet.
Donc ça vous permettra d'avoir donc une continuité en ce que vous faites, d'avoir un peu plus d'espace, de pouvoir proposer peut-être plus de choses, de recevoir des groupes aussi
Les groupes, on reçoit des groupes depuis extrêmement longtemps, donc des groupes scolaires, qui travaillent avec leurs enseignants sur des thèmes précis, donc on les reçoit. On ne reçoit d'ailleurs pas que des scolaires, on a reçu au mois de juin l'année dernière, on a reçu des détenus de la maison d'arrêt d'Argentan.
D'accord.
Nous sommes intervenus, alors là c'est assez fait hors les murs, nous sommes intervenus également au mois d'octobre à la maison d'arrêt de Laval pour évoquer une ancienne exposition dont je parlais tout à l'heure, donc sur les nomades en Mayenne, l'internement des nomades en Mayenne, devant donc des petits groupes qui étaient d'ailleurs tous extrêmement intéressés. Et puis, nous recevons évidemment le public. Alors, je reviens sur les scolaires. Faut quand même dire que, sauf l'année dernière, parce que c'était particulier, mais nous recevons en moyenne 2500 élèves par an.
D'accord.
Quand même.
Oui, quand même. C'est ce que je veux dire, effectivement.
Voilà. Et donc, évidemment, l'année dernière, c'est un peu particulier. Cette année... ce sera parti.
Ça sera mieux prochainement, c'est ce qu'on va se dire.
Voilà. On attend avec impatience la suite comme tout le monde.
On voit bien tout ce travail de médiation. Alors, vous parliez tout à l'heure qu'il y avait deux lieux. Il y avait le lieu donc, de mémoire et puis cet espace de vigilance, c'est ça ?
Oui.
Si on est sur le lieu de mémoire, vous parliez de témoignages, d'écrits. Comment s'est passé tout ce travail de recherche ?
J'en parle d'autant plus à l'aise, je suis ironique, que je n'étais pas au mémorial juste à ce moment-là. Mais alors, donc, le travail a été fait par des bénévoles qui sont toujours présents, notamment des professeurs d'histoire.
D'accord.
Donc, il y a eu d'abord donc, une recherche de tous les déportés connus en Mayenne. Donc, ils sont officiellement 540, mais il y en a sûrement beaucoup plus.
Hein.
Parmi eux, 90-95 juifs. Hein, voilà. Et donc, il y a eu d'abord cette recherche des déportés. Et ensuite, il y a eu tout un travail de fait auprès des familles quand c'était possible, pour faire notamment des fiches d'identité. Hein. Il y a un mur des noms dans une des salles qui présente justement une fiche de chaque, avec l'itinéraire de chaque déporté. Il a été fait un appel auprès des familles, auprès des associations, s'il y avait des objets. Et
d'accord,
j'avoue franchement que beaucoup de familles ont accepté de nous proposer à demeure.
Donc de se séparer d'objets de famille qui étaient symboliques pour eux en plus.
Oui, se séparer d'objets. J'ai en tête notamment un objet tout à fait particulier qui était un objet, en fait, une espèce de grosse boule qui servait aux gardiens du camp de concentration. Il me semble bien que c'était... Je ne sais plus. C'est un camp de femmes. Dans ce camp, les gardiens jouaient au football à moto. Et donc, il y avait cette grosse boule qui se...
D'accord,
se,
qui servait de ballon,
voilà,
en fait.
Ouais. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une ancienne déportée. Elle a traversé toute l'Allemagne avec cette... Alors, elle s'est demandé longtemps pourquoi, avec cette grosse boule qu'elle a récupérée au moment de la libération du camp. Et donc cette grosse boule est exposée, notamment. Nous avons aussi des tenues de déportés déposées par les familles, des lettres, voilà, qui ont été... Alors des lettres, soit ce sont des originaux, quelquefois ce sont des copies, et nous avons encore des dépôts.
D'accord, encore, encore des familles qui déposent. Oui. C'est important, là, parce qu'on parle souvent du devoir de mémoire, et notamment auprès des jeunes. Et justement, c'est symbolique, toutes ces familles qui vont permettre justement de pouvoir conserver ça et de pouvoir dire, voilà, ça existe, enfin, pour montrer tout ça. On voit qu'il y a, alors je rentre un peu, mais on voit qu'il y a des mouvements néo-nazis qui commencent à émerger aussi un peu. Voilà, donc c'est vraiment important pour vous, j'imagine, en tout cas, faire tout ce travail du mémoire.
Ah oui, bah, l'espace mémoire est très, très important, parce qu'il faut informer notamment les jeunes.
Les jeunes.
Ce sont nos passeurs de mémoire. Voilà, mais et l'espace vigilance est d'autant plus important également. Et là, bah, on essaye de recueillir, notamment puisque notre thème actuel c'est l'antisémitisme, on essaye de recueillir tout ce que l'on peut, justement, tous les actes d'antisémitisme qui sont en France, surtout actuellement. Tristement mis en avant.
Qu'est-ce qu'ils vous disent les jeunes quand ils viennent au mémorial ? Qu'est-ce que vous racontez les jeunes quand ils viennent au mémorial ? Est-ce qu'ils sont surpris ? Quel regard ils ont ? Qu'est-ce qu'ils portent sur cette histoire-là ?
Je dois dire qu'à part quelques rares exceptions, avec des réflexions, on a eu une fois des réflexions déplaisantes de jeunes, quand on évoquait les déportés, on disait que bon... ils étaient tous décédés. Mmh. Enfin, il resta à l'époque Monsieur Leroy, et qui nous avait dit « Oh bah, ils ont fait leur temps ». Donc on leur a expliqué que c'était pas le lieu pour ça,
ouais.
Et que c'était peut-être pas souhaitable qu'ils restent. Par contre, non, 99% des jeunes. Et moi, je me souviens, il y a 2 ans, j'avais accueilli un groupe d'un collège lavallois avec leur professeur. Donc les élèves étaient devant le mur des noms, et à côté, on a un classeur comme celui-ci avec des précisions sur chaque déporté. Et la petite jeune fille vient me voir et elle me dit, bah, écoutez, je viens de découvrir le nom de mon arrière-grand-père. Alors je dis, mais vous ne saviez pas ? Elle dit non, dans la famille on disait, il était parti en Allemagne et il n'est pas revenu. C'était tout ce qu'on disait dans la famille.
D'accord.
Et alors ses amis lui ont dit, tu es sûr ? Elle dit, oui, je viens de voir là, où il est né, où il a vécu, ce qu'il a fait, le village.
Ouais, donc
j'ai tout là. Voilà, c'est mon arrière-grand-père et je ne savais pas qu'il était mort
en
déportation.
Donc elle a découvert une partie de son passé.
Voilà. Alors elle en a parlé, elle m'a dit, je vais en parler à mes parents. Donc sont-ils venus après ? Bah, en tout cas, ils ne se sont pas signalés. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est assez émouvant. Cette petite jeune fille qui retrouvait son arrière-grand-père grâce à nous.
Un peu grâce à vous, ouais, complètement,
voilà,
tout à fait. Vous parliez aussi donc, du coup, des professeurs d'histoire géo avec les collèges notamment. Il y a des projets, j'imagine, qui se mettent en place. Vous parlez aussi tout à l'heure de l'AMAV, l'association mayennaise d'action avec les gens du voyage.
Oui.
Il y a eu des choses à mettre. Comment ça se travaille tout ça ? C'est le rôle de vos médiateurs du coup comment se mettent en place des projets avec les écoles ? Est-ce que du coup vous mettez...
Alors, nous sommes 6 dans la commission animation.
D'accord.
Et disons qu'eh bien, on cherche les sujets à travailler, notamment pour les expositions temporaires. Mmh. Une fois que ça s'est mis en place, c'est nous 6. Nous cherchons des interlocuteurs.
Okay.
Ça peut être des universitaires, ça peut être des témoins, ça peut être des écrivains. Et justement, si je puis me permettre, là,
oui,
on a quelques projets qui vont se faire quand ? On ne sait pas. Mmh. Donc, on a par exemple l'auteur Philippe Grimbert qui doit venir le 17 avril aux archives départementales de Laval évoquer son ouvrage Un secret.
D'accord.
Donc c'est maintenu, sauf si évidemment ce n'est plus possible. Fin juin, on a un historien qui se nomme Laurent Thierry et qui vient donc nous proposer son dictionnaire sur Dora. Là, ça fait deux fois que c'est repoussé. Nous avons également donc une rescapée d'Auschwitz, Madame Kolinka, qui devait venir au mois de novembre, qui devait venir aussi au mois de février, et qui finalement va venir au mois d'octobre et au mois de novembre, parce qu'on lui avait proposé de venir chez elle et de faire une visioconférence. Oui. Elle ne le souhaite pas.
D'accord.
Et là, elle devait donc proposer un témoignage devant le grand public, et elle nous a proposé, parce qu'elle a, je l'admire, elle a une forme phénoménale à 95 ans, elle nous a proposé de rencontrer, alors ça se fera au théâtre de Mayenne, des élèves.
Oh,
et donc nous avons trois établissements, dont un qui vient de la Sarthe, qui sont intéressés. Voilà, donc il y a ça.
Donc à 95 ans, elle fait encore des
conférences. Ah oui, mais là, la semaine dernière, alors je pense, je ne sais pas comment ça s'est fait, elle était à Brest.
D'accord.
Elle était à Brest et elle s'en va fin juin, je crois, dans le sud de la France. Donc voilà, elle répond positif à toutes les invitations avec un enthousiasme. On l'a eu plusieurs fois au téléphone. J'ai une admiration vraiment sans borne pour elle. Et alors, on a également une conférence donc, qui devait se faire dans le cadre de la semaine contre les discriminations.
Tout à fait.
C'était donc une conférence sur l'antisémitisme hier et aujourd'hui en France, donc fait par Madame Annette Vivorca. Donc on l'a. Alors cette conférence se faisait en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme et avec Canopée 53. Donc il a été décidé d'un commun accord avec elle qu'il serait mieux de faire ça en présentiel pour avoir un débat plus vivant. Et donc, elle viendra, elle nous a confirmé qu'elle viendra en septembre. Alors là aussi, pour les dates exactes, il va falloir revoir parce qu'ils ont des calendriers tous et toutes relativement importants. J'ai oublié quelque chose. Tout à l'heure, c'est l'émotion, le camp pour femmes, c'est Ravensbrück.
D'accord.
Excusez-moi, je n'ai aucune excuse. Et je viens d'oublier aussi qu'au mois de juin, début juin, vous avez une auteure de livres pour enfants qui se nomme Elisabeth Bramy, qui a écrit un remarquable ouvrage pour la jeunesse qui s'appelle « Sauve-toi, Ellie », qui est l'histoire d'un petit garçon de 8 ans qui est donc mis en pension par ses parents chez deux personnes qui le malmènent. Enfin bon, il y a toute une histoire extrêmement émouvante. Et elle viendra rencontrer des élèves, donc, début juin.
D'accord. Edith, je te propose une petite respiration, petite pause musicale, et on se retrouve juste après pour continuer de découvrir le mémorial des déportés.
Je te remercie.
À tout de suite.
Je m'en souviens, j'ai tout oublié, mais tout me revient. On escaladait nu des montagnes de joie pour parvenir à cru au bout de nos chagrins. Je ne me rappelle plus, mais parfois me reviennent des rengaines insensées, 3 milliers d'éoliennes, des amours désossées et d'autres bien plus chiennes, mais peu d'eau s'arrangeait. Rien dont je ne me souvienne. Il y a bien sûr ces nuits où la mémoire se raye. Il y a bien sûr ta nuque et tes boucles d'oreilles. Des mots glaçants qui marquent bien plus que les coups. Et puis aussi ces marques de suçons dans mon cou. Je me souviens d'avoir fait de la peine à ceux que j'aimais bien, d'avoir quasi vécu d'eau fraîche et puis de vin. Je n'ai pas posé nu, j'ai fraudé tous les trains. Je ne m'en rappelle plus, mais parfois me reviennent ces armées de cocus ou de lourds ciels de traîne. Battant le pavé nu, je prenais la tangente. Grâce à quelques gros culs, la vie fut bien charmante. Il y a bien quelques soirs où la mémoire recrée ta petite robe noire et ton grain de beauté. Celui sur ta poitrine comme un astre égaré, quand la nuit de morphine devient l'aube dorée. Je ne m'en rappelle plus, mais je m'en souviens. J'ai tout oublié, mais tout me revient. Ces volets de mots crus qui atterrissaient bien. Entre le lit et le mur, on se faisait du bien. Mais parfois c'est le pire, la mémoire joue des tours et met un point d'honneur à salir nos amours. Mais le cœur et les tripes ne portent pas d'armure, et l'amour en principe est une piqûre qui dure. Il y a toujours ces nuits où la mémoire ne flanche que sur quelques détails sans la moindre importance. Mais au fil de ces films, l'espoir se fait la paire, et plus les nuits défilent, plus le cœur est de pierre, plus la mémoire.
De retour avec Edith Lécuyer Go. Merci Edith encore d'être avec nous. Donc on parlait bien sûr du mémorial des déportés, et je voulais parler aussi de tout ce qui était médiation, et notamment il y a tout un travail qui est fait actuellement hors les murs, c'est ça, où les médiatrices du coup vont à l'extérieur rencontrer les jeunes,
tout
c'est
à
ça
fait. Tout à fait, dans la mesure où nous ne pouvons plus accueillir les groupes d'élèves, hein, je crois l'avoir déjà dit, nous avons reçu 2500 ouais. élèves par an, et donc là, eh bien, à la demande des établissements scolaires, nous nous déplaçons sont hors des murs. Donc, c'est Céline, une de nos salariées, aidée par un service civique, qui se déplace avec une mallette pédagogique qui est adaptée donc, au niveau des élèves qui sont devant eux. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Il y a un autre travail aussi que nous faisons depuis peu, c'est l'interview de descendants donc de déportés, et ces enregistrements se font en partie avec la présence d'une historienne psychologue,
d'accord,
parce que pour certains, eh bien, l'héritage mémoriel de leurs parents ou de leurs grands-parents n'est pas forcément si évident que ça.
Voilà. Alors, une structure jeunesse, un établissement qui nous écouterait là maintenant, on peut contacter le mémorial pour éventuellement avoir une intervention au sein d'un collège, d'un lycée.
Tout à fait.
Il n'y a aucun souci.
Tout à fait.
Voilà.
Donc, nous nous déplaçons dans le département, mais ça peut aussi se faire, par exemple, dans la Sarthe.
Hein, d'accord, ok. Voilà. Ouais, jusque le département
voilà.
de la Sarthe.
Il y a eu des demandes.
Alors, voilà. Vous avez aussi des prêts de jeux, j'ai vu ça, il y a des possibilités de prêter des jeux aussi.
Alors, oui, alors donc on peut. Alors, d'abord, on peut prêter toujours, mais ça se fait depuis très longtemps, les expositions.
D'accord,
les
oui.
Les expositions, donc, parce que j'en ai cité deux en plus de l'actuelle, mais il y en a d'autres sur la libération de la Mayenne, sur les prisonniers de guerre, par exemple.
On peut les consulter, ces expositions ? Est-ce qu'on
alors,
peut...
sur le site du mémorial, vous pouvez, comment dirais-je, découvrir la liste des expositions.
D'accord.
Vous pouvez donc les emprunter. Donc, souvent, ce sont des établissements scolaires qui nous les demandent, mais pas que. Hein, ça peut être aussi des associations qui nous les demandent.
Okay.
Par exemple, l'exposition précédente qui était donc « Imaginer pour résister » a été demandé par la bibliothèque municipale de Laval, sauf que, bon, bah, vu les événements, ce n'est que partie remise. Et alors, donc, effectivement, oui, on a des jeux. Hein. On a aussi une bibliothèque de plusieurs centaines d'ouvrages donc, qui peuvent aussi faire l'objet de...
Par des particuliers aussi
de... Alors, pour l'instant, ce sont surtout les adhérents du mémorial qui ont priorité, mais on n'exclut pas la possibilité de les prêter.
Justement, on n'a pas parlé forcément de ça tout à l'heure. Il y a un système d'adhésion. Comment on peut adhérer, être soutien du coup du mémorial?
Alors, il y a deux possibilités. Donc, il y a l'adhésion de 15 euros par an. Donc, n'importe qui peut le faire. Et puis, il y a aussi, donc, pour les personnes qui le souhaitent, donc un soutien financier qui peut être fait. Voilà.
D'accord. Ok, très bien. Alors, on parlait des expos qui peuvent être empruntées. On va parler justement de cette exposition qui est actuellement, là, qui est exposition temporaire actuellement, sur les itinéraires, c'est ça? Vous vouliez parler d'un itinéraire un peu plus précis? Vous parlez
alors,
d'un...
Oui. Alors, en fait, donc, cette exposition donc, qui a pour titre « Destin brisé, itinéraire de Juifs en Mayenne de 1939 à 1945 », donc, nous avons choisi 8 itinéraires. Donc des itinéraires de personnes qui sont pour la plupart originaires de Pologne, d'Allemagne, également d'Autriche, pour les principaux. Et ces personnes sont venues s'installer souvent, donc soit avant la guerre 14, mais pour la majorité après la guerre 14, entre les deux guerres, sont venus s'installer dans le nord de la France, dans l'Est ou à Paris. Mmh. Et donc, avec le début de la guerre, certains sont venus volontairement, parce que ceux qui étaient dans le nord de la France, eh bien, ont été donc repoussés par l'avancée allemande. Donc, sont venus s'installer volontairement. Mais certains ont été assignés à résidence. Alors là, c'était tout à fait contre leur volonté. Mmh. Et donc... parmi ces familles qui nous ont toutes émues, nous avons eu beaucoup d'émotions à travailler sur chacune de ces familles, parfois rarement parce que c'était plus difficile avec des descendants qui nous ont fait d'ailleurs, je les remercie beaucoup d'une grande confiance. Et donc parmi ces familles, moi j'ai personnellement eu l'occasion de travailler sur un itinéraire qui m'a beaucoup intéressée parce que en tant qu'ancienne professeure d'histoire géographie dans un lycée à Laval, j'ai eu beaucoup d'intérêt à travailler sur l'itinéraire de Charles Farber, dit Danton. Alors, Charles Farber est un personnage avec un itinéraire tout à fait intéressant. Il est né en 1884, donc à Odessa.
D'accord.
Odessa, donc, qui faisait partie de l'Empire russe. Odessa, où vivait une communauté juive assez importante. Hein. On parlait d'ailleurs des portes de Sion. Et donc, en 1905, il est venu à Paris et on s'est posé la question, mais pourquoi en 1905? Et alors, en fait, en cherchant un peu, on a découvert qu'il avait été membre du Bund. Alors, ça s'écrit B-U-N-D.
D'accord.
Et le Bund, donc, c'était une sorte de regroupement de juifs laïcs socialistes, hein, puisqu'ils avaient adhéré à l'Internationale ouvrière.
D'accord.
Et à ce titre, donc, ils ont été combattus à la fois par le régime tsariste et par les juifs orthodoxes qui ne supportaient pas, évidemment, des jeunes laïcs.
D'accord. Donc, ça explique effectivement ça.
Voilà. D'accord. Et alors, donc, il est parti, pour des raisons évidentes, à Paris, où il est arrivé en 1905 et il est allé s'installer donc à Montreuil-sous-Bois où il est devenu cordonnier. On ne sait pas ce qu'il faisait avant comme métier.
D'accord.
Et pourquoi Montreuil-sous-Bois? Parce que elle accueillait une communauté de juifs extrêmement bien organisée et de gauche.
D'accord.
Voilà, qui correspondait évidemment à son cheminement politique. Alors, ce qui est intéressant chez Charles Farber, c'est qu'il s'est toujours déclaré laïque. On a retrouvé un écrit où il disait « Je n'ai jamais fréquenté la synagogue ». Voilà. Et alors, donc, son itinéraire va le conduire ensuite à Désertines, en Mayenne. Alors, pourquoi Désertines,
ouais, ça va être ma question. On n'arrive pas comme ça, Désertines.
C'est parce qu'en fait, en 1935, il avait acheté une ferme pour les vacances. Alors, il était en ménage à l'époque avec une jeune femme qui tenait un restaurant rue Picpus à Laval, à Paris, excusez-moi. D'accord. Et donc ils sont partis de Paris. Ils se sont installés définitivement en 1937 à Désertines.
En Mayenne, du coup.
Parce que donc Charles Farber était, je dirais le mot malmené, en fait, les ligues d'extrême droite étaient extrêmement virulentes et toute personne donc qui était juif et de gauche, hein, c'était dans le cadre de ce qu'ils condamnaient, ce qu'ils appelaient le judéo-bolchevisme, et donc pour sa tranquillité, ils ont mis le restaurant à Paris en gérance et ils sont partis donc à Désertines avec leur fille adoptive.
D'accord.
Et c'est là que donc en 1942, Charles Farber a été arrêté un matin d'octobre 1942. Il a été envoyé au camp de Mulsanne en Sarthe, ensuite à Drancy et Auschwitz, d'où il n'est jamais revenu, puisque je signale qu'hélas, sur tous les Juifs qui sont partis de Mayenne en 1942 et qui ont été envoyés donc, dans les camps d'extermination, il n'y en a que deux qui sont officiellement revenus. Voilà.
Donc sur cette exposition, votre 8 itinéraires, c'est ça exactement, il y a... 8 itinéraires, hein, c'est ça?
Oui.
Ouais. Et justement, comment vous avez fait vous avez fait le choix? Il y avait plusieurs, vous êtes parti sur 8 directement ou est-ce que du coup vous êtes parti sur une quinzaine d'itinéraires en disant on va garder que ces 8-là? Comment ça s'est passé tout ce travail justement?
En fait, il faut dire qu'on a travaillé pendant 2 ans.
Alors, il y a eu deux ans de travail derrière.
Oui, il y a eu des recherches alors, par plusieurs bénévoles aux archives départementales. Moi, je suis allée avec Élodie, notre coordinatrice, au mémorial de la Shoah 15 jours avant le premier confinement. On a passé 2 jours en recherche là. Nous avons réussi à retrouver quelques familles qui nous ont donc fait confiance et apporté un certain nombre de documents. Et à partir de ça, eh bien, le choix a été fait tout simplement pour ceux pour qui on avait le plus de documents.
Parce d'accord. Okay.
Voilà, parce que bon, il faut être crédible. Donc, on a choisi ceux pour qui on avait le plus d'informations. Mais pour l'instant, nous sommes dans une période d'écriture. On nous a demandé d'écrire un ouvrage sur le sujet.
D'accord.
Donc,
qui repartirait de ces...
Alors, voilà. Alors, donc, on va approfondir les huit itinéraires que nous avons. Mais avec Elodie, nous avons choisi d'en rajouter 8. Donc, on travaille 4 et 4 chacune. Voilà.
Okay.
Et alors là, c'est pareil. On a choisi là aussi des itinéraires de gens qui avaient dont on avait le plus d'informations. Et puis aussi il y a deux personnes qui nous ont particulièrement intéressés, même si on n'a pas une foule d'informations sur eux. C'est des gens qui étaient donc à l'hôpital psychiatrique donc à Mayenne et qui se sont retrouvés dans un convoi au départ d'Angers. Donc on a été intéressés pour évoquer également ces itinéraires-là. Voilà.
Un vrai travail de fourmi, c'est passionnant. Enfin, quand vous en parlez, vous êtes passionnante déjà. Enfin, tu es passionnante, Edith. Mais en plus, on imagine tout ce travail de recherche, cette relation avec les familles, enfin, tout ce que vous avez pu aller aux archives départementales à l'autre. C'est fou. Qu'est-ce qui vous mène, vous, justement? Enfin, j'imagine que c'est le fait d'être historienne. Enfin, c'est ça, du coup?
Comment Moi, ce qui m'a intéressée, d'abord, je suis historienne, mais je ne suis pas venue au mémorial parce que tous les bénévoles ne sont pas des historiens. Voilà. Heureusement. Hein, nous avons des gens de tous les horizons, je dirais même au niveau choix idéologique et tout, et c'est très très bien. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était justement ce qui était fait au mémorial.
D'accord.
Vraiment, okay. Je connaissais Jocelyne Dumaux depuis quelques années parce que nous participions ensemble au jury du concours national de la résistance et de la déportation. Mm-hmm. Donc je l'avais rencontrée là. Et donc, elle avait évoqué justement le fait que si ça m'intéressait, je pourrais venir comme bénévole au mémorial. Et donc, j'étais intéressée par le travail qui est fait, par les gens aussi qui y sont, mmh. avec la rencontre donc des bénévoles, mais les rencontres des gens qui viennent intervenir. Mmh. Voilà, donc c'est un endroit, je regrette pas un seul instant d'y avoir adhéré.
En tout cas, vous êtes un porte-parole, du coup, voilà. Sur l'exposition, donc là, elle est visible, c'est ça ? Enfin, pour l'instant, effectivement, c'est plus compliqué parce qu'on est en période de... Voilà, mais bon, elle sera visible prochainement. Sur l'écrit, quand est-ce que vous parliez d'un livre qui pourrait être éventuellement édité ?
Alors, l'écrit, alors là, je vais être honnête, on est donc deux à l'écrire. Mm-hmm. On a des problèmes de recherche d'archives parce que les archives départementales sont ouvertes sur rendez-vous.
D'accord.
Par contre... on a plus de problèmes. Je voulais aller notamment à Lille pour faire des recherches sur une famille qui venait de Lille. C'est un petit peu plus compliqué. Mmh. Donc pour l'instant, on est en train de faire nos recherches.
D'accord.
Qui avancent. Il y a une partie qui est prête parce qu'on a pensé évoquer l'histoire des Juifs en Europe. Bon, il y a eu des livres déjà faits là-dessus, mais évoquer quand même un petit peu moins brièvement que ce qu'on avait pensé au départ, évoquer donc l'histoire des Juifs en Europe donc depuis le Moyen-Âge. Mmh. Donc là, et j'ai découvert moi personnellement des choses très très intéressantes, justement pourquoi certains Juifs ont été plus nombreux en Pologne qu'ailleurs.
D'accord,
voilà. Ouais. Donc en fait, pour l'instant, c'est une recherche d'informations. Il y a une partie qui est écrite, donc les parties générales.
Okay.
Et par contre, l'essentiel, c'est-à-dire les 8 itinéraires que nous rajoutons, là, nous sommes encore en phase de recherche, oui. Et surtout que là, on a du mal à trouver des familles. Là, alors, on ne sait pas s'il y a des descendants pour les familles que nous présentons.
Ouais, donc c'est tout ce travail de fourmi, en tout cas, de retrouver des familles éventuellement.
Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc ce sera... On avait proposé décembre. Je pense que, très modestement, ce sera peut-être plutôt pour le trimestre suivant.
D'accord, donc plutôt 2022, en tout cas début d'année 2022. Voilà. D'accord, parfait. Bon, en tout cas, on a pu parler du mémorial. Je ne sais pas si, Eddie, tu vas rajouter des choses, en tout cas, sur le mémorial. Je pense qu'on on invite, en tout cas, quand ça va être réouvert, les amis auditeurs, de pouvoir, en tout cas, se déplacer au mémorial à la Mayenne, et puis bien sûr de suivre aussi l'actualité. Je crois qu'il y a un site internet du mémorial où on peut aller bien sûr consulter tout ce qui se passe et tout ce qu'on faisait tout à l'heure.
Il y a même une chaîne YouTube. Alors là, ça c'est l'admirable travail des jeunes qui font le service civique.
D'accord, jeunes volontaires.
Ouais, c'est eux qui nous font un très très beau travail. Alors je voudrais juste évoquer en dernier lieu.
Oui, pas de souci.
On parlait des jeunes. Mmh. Et donc, à chaque fois que nous avons des expositions temporaires, il y a une affiche qui est faite.
D'accord.
Et l'affiche, elle est faite par les jeunes qui sont en première année d'imprimerie au lycée professionnel Léonard de Vinci de Mayenne.
De Mayenne.
Donc, c'est un travail pédagogique. Donc, et ils nous font des propositions d'affiches.
Ah, c'est
et nous choisissons. Donc, ça me semble intéressant.
Donc ils travaillent, en fait, vous leur donnez des mots-clés, c'est eux qui travaillent.
Avec leur professeur, on leur donne le sujet de notre exposition. Et donc, c'est un travail en classe et en atelier avec leur professeur.
C'est super.
Donc, voilà, donc ils nous proposent. Donc ça, c'est fait pour chaque exposition. Ils travaillent le sujet, ils nous font des propositions. Et nous, en commission animation, on choisit la fiche qui nous plaît le mieux.
Très chouette, un vrai travail de collaboration.
La fiche actuelle qu'on voit surtout sur Mayenne, et sur l'exposition Destin brisé, ce sont là aussi les jeunes du lycée professionnel en première année imprimerie qui l'ont imaginé.
D'accord.
Voilà, donc c'est un beau travail aussi pédagogique et de, comment dirais-je, de liaison avec nous.
Bien sûr, belle initiative en tout cas. Et donc voilà, donc on peut retrouver ce qu'on disait sur la chaîne YouTube. Donc du coup, j'ai mis le compte à YouTube et puis Mural des Déportés, on retrouvera rapidement en tout cas toute l'information. Bien sûr, le site internet du mémorial.
Bien sûr.
Pour avoir toutes les informations. On parlait tout à l'heure éventuellement de pouvoir emprunter des expositions, des jeux, enfin voilà, contacter éventuellement pour des interventions en tout cas avec dans des structures à l'extérieur. Faut vraiment pas hésiter. Et puis bien sûr, si vous voulez aussi soutenir le mémorial, et puis vous pouvez aussi, j'imagine,
adhérer,
via internet, adhérer 15 euros.
Voilà. Et puis en parler parce que beaucoup de gens sur Laval, y compris des anciens collègues enseignants, ne sont pas toujours au courant qu'il y a un mémorial de la déportation à Mayenne. Donc c'est vrai qu'on manque parfois de visibilité.
Mais je suis complètement d'accord avec vous, parce que pour avoir travaillé sur Mayenne, je connaissais le mémorial et en arrivant à Laval, il y avait des gens qui ne le connaissaient pas. Tout à fait. Mmh. Je pense qu'encore tout ce travail-là de médiation et de faire connaître, continuer de faire connaître le mémorial. Et juste pour terminer, du coup, le collectif UND, c'est important pour vous d'y être du coup,
Bien entendu. Mmh. Je crois que nous y sommes depuis le début. Mmh. Donc, en fait, nous sommes deux à intervenir, Alain Viau et moi. Et c'est très, très important, évidemment, bien sûr, parce que je dirais qu'un travail sur la mémoire nous permet de mieux comprendre et d'être vigilant, très vigilant sur le présent.
Bien sûr.
Mais bien sûr.
Mmh, ça permet évidemment des partenariats. Vous parliez de la Ligue des droits de l'homme tout à l'heure.
Oui, parce qu'en fait, cette salle vigilance là, on ne le fait plus depuis l'année dernière, mais on se déplaçait aussi hors les murs pour faire dans le cadre des TAP. Il y avait justement des bénévoles qui faisait travailler les élèves sur les droits de l'homme également, donc depuis un an, il n'y a plus rien de ce côté-là.
Oui, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, merci Edith d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
C'était passionnant en tout cas.
Merci
beaucoup. Et puis du coup, on vous rappelle le site undcollectif-und.fr. Vous pouvez retrouver bien sûr l'ensemble des structures qui font partie de ce collectif, mais aussi toute l'actualité liée aux semaines d'éducation contre les discriminations. On a souhaité, ça je vais l'expliquer, on a souhaité laisser en tout cas tout ce qu'on souhaitait nous mettre en place. Alors vous verrez, il y a des actions qui sont reportées ou annulées, mais c'était pour montrer aussi toute la richesse de ce collectif et en tout cas tout ce qui était proposé. Et il y a pas mal de choses aussi, je pense notamment à une exposition actuellement sur la ville de Mayenne, femme de l'ombre, femme de lumière. On se retrouve très vite sur l'autre radio, à bientôt.